Vous écoutez, on lit pour vous.
Et l'intérêt de l'enfant, lui. Un texte de Maître Sylvie Schirm, paru le 8 mai 2025 dans la presse. En date du 25 avril 2025, le juge Andrés Garin de la Cour supérieure a rendu un jugement par lequel il déclare que le régime de la filiation du Code civil du Québec ne permettant pas l'établissement de la filiation à l'égard de plus de deux parents, porte atteinte au droit à l'égalité garanti par le paragraphe 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. Le juge donne à Québec un an pour modifier la loi et ainsi permettre à plus de deux parents d'être inscrits sur l'acte de naissance d'un enfant et donc d'être investis de l'autorité parentale. Ce jugement est rendu peu de temps après une importante réforme en droit de la famille qui a déjà traité de cette question et en vertu de laquelle le législateur, après une large consultation, a décidé d'écarter la possibilité qu'un enfant puisse avoir plus de deux parents sur un acte de naissance. Plusieurs croient que ce jugement est un gain pour les familles qui vivent la pluriparentalité, c'est-à-dire celles qui, dans les faits, élève un enfant à plus que deux dans diverses circonstances. Il va de soi que ces revendications sont motivées par le désir de ceux et celles qui agissent comme parents d'avoir une reconnaissance juridique. En effet, le but est d'être inscrit sur l'acte de naissance de l'enfant. Pourquoi? Pour exercer des droits, imposer sa vision et ses choix en tant que parent en cas de rupture. Mais qu'en est-il pour l'enfant? Qu'arrive-t-il de ses droits, de son intérêt? L'enfant et la séparation. Lorsqu'il n'y a que deux parents séparés, peu importe l'horaire, l'enfant vit dans deux résidences, doit transporter ses effets à deux familles différentes avec des règles et des exigences différentes dans chaque maisonnée, sans compter les nouveaux conjoints et leurs enfants. On a beau parler de résilience, on en demande déjà beaucoup aux enfants de parents séparés. Lorsque la situation entre les deux parents est conflictuelle, les répercussions néfastes chez l'enfant sont encore pires. Il est illusoire et utopique de penser que si plus de deux personnes décident de participer ensemble à l'élaboration d'un projet parental, elles seront nécessairement immunisées à la possibilité de rupture. Une rupture et un litige concernant un enfant peuvent survenir peu importe qu'il y ait deux ou trois ou quatre parents, peu importe que ses parents soient hétérosexuels ou non, issus de la communauté LGBTQ, peu importe qu'ils aient conçu l'enfant par relation sexuelle ou qu'ils aient eu recours à l'adoption ou à la procréation assistée. Et l'enfant avec trois parents, il ferait quoi? On le divise en combien lors de la rupture? Deux, trois, quatre? Que fait-on à Noël, à la semaine de relâche, l'été, et à la sacro-sainte Halloween? Qui prendra la décision de l'école, publique, privée, du sport, hockey, soccer, patinage artistique, de la santé, vaccin, chiro ou non, de la nourriture, vegan, végé? Deux parents contre un? Un juge de la Cour supérieure? Quel effet cela aurait-il sur l'enfant en général, lequel serait alors bien malgré lui placé au beau milieu d'un conflit important? Comment gérer, du point de vue de l'enfant, les trois ou quatre parents en conflit qui se présentent en même temps chez le dentiste pour le rendez-vous du petit, ou qui vont à l'école pour la rencontre avec l'enseignant? Même s'il est vrai de dire que plus de gens aiment l'enfant et sont des personnes significatives pour lui, mieux il s'en portera. Il est tout de même difficile d'imaginer qu'un tel scénario serait dans l'intérêt de l'enfant lorsque le conflit éclate. La loi prévoit déjà comment inclure un tiers dans la famille. les ex-conjoints ont maintenant la possibilité de demander des contacts avec l'enfant. Un parent peut déléguer l'autorité parentale et il existe également la tutelle supplétive. Toutes des façons de tenir compte de celui ou celle qui n'est pas inscrit sur l'acte de naissance de l'enfant. Certains diront que la rupture des familles de trois parents se ferait sereinement. Et si tel est le cas, pourquoi avoir besoin d'une reconnaissance judiciaire du rôle joué dans la vie de l'enfant? Quelle est la nécessité de cette reconnaissance sur papier si, de toute façon, cette famille vit en harmonie et tout le monde peut continuer à participer malgré la rupture? Bref, les adultes ont des droits, en effet. Mais ces droits doivent être exercés dans l'intérêt de l'enfant et non de l'adulte. Il ne faut surtout pas oublier l'enfant qui sera au cœur de ce litige et le protéger, lui. C'était « Et l'intérêt de l'enfant, lui », un texte de maître Sylvie Schirm, paru le 8 mai 2025 dans La Presse.
Le recul de la natalité pourra difficilement être renversé, un texte d'Éric Desrosiers paru le 10 mai 2025 dans Le Devoir. Les femmes font de moins en moins d'enfants dans le monde sans qu'on semble trouver de façon de renverser réellement la tendance à long terme. L'indice synthétique de fécondité a diminué de nouveau en 2024 au Québec, passant de 1,38 à 1,33 enfants par femme, a rapporté jeudi l'Institut de la statistique du Québec. C'était le niveau le plus bas jamais enregistré, le précédent record étant de 1,36 en 1986. Il faut une moyenne de 2,1 enfants par femme dans une population pour que les naissances compensent les décès. Le Québec est passé sous ce seuil de remplacement en 1970. Cela veut dire qu'avec son taux de fécondité actuel, la population québécoise fondrait d'un tiers dans l'espace d'une génération s'il n'y avait pas aussi l'immigration. En 2024, l'accroissement naturel de la population a ainsi été négatif à raison de 1 400 décès de plus que de naissances. Mais comme il y a aussi eu plus de personnes du reste du Canada ou de l'étranger qui sont entrées au Québec que de personnes qui en sont parties, le Québec a gagné 155 300 habitants de plus pour porter son total à un peu plus de 9 millions. Ce déclin de la natalité n'est pas nouveau. Il est en cours depuis un peu plus d'une centaine d'années, le taux de natalité étant presque 5 fois plus élevé avant la Première Guerre mondiale et l'indice de fécondité approchant encore les 4 enfants par femme au pic du baby-boom au milieu des années 1950. Le phénomène n'est pas réservé au Québec non plus. La majorité des autres provinces canadiennes affichent un indice de natalité plus bas encore, notamment l'Ontario, 1,22 enfants par femme en 2023, et la Colombie-Britannique, 1 enfant. En fait, la moyenne dans les économies développées a fondu de 3,3 enfants par femme à 1,5 entre 1960 et 2022, observé à l'été 2024 l'OCDE dans un chapitre spécial de son panorama de la société. C'en est au point où aucune d'entre elles, à l'exception d'Israël, ne parvient désormais à passer le cap du seuil de remplacement, y compris les États-Unis, 1,6, le Japon, 1,2, l'Allemagne, 1,5 et la France, 1,6, selon les données les plus récentes que l'on puisse trouver. Les pays riches ne sont pas seuls dans ce cas, selon les Nations Unies. Les 2/3 de la population mondiale vivent dans une région où le taux de fécondité est inférieur à 2,1 enfants par femme, que ce soit en Chine, 1,0, au Brésil, 1,6, ou même en Inde, 2,0. Cette proportion devrait atteindre les 3/4 en 2050, selon des experts. les avancées des femmes. Les causes de cette infécondité, comme dit l'OCDE, sont évidemment multiples. Elles découlent souvent de facteurs qui s'avèrent des avancées technologiques, sociales et économiques, notamment au profit des femmes. On pense au raffinement et au meilleur accès aux moyens de contraception et de régulation des naissances qui aident à décider si ou quand on aura des enfants et combien. On pense aussi au meilleur accès à l'éducation et au monde du travail pour les femmes qui les incite à repousser à plus tard le moment d'avoir des enfants. Toujours dans les pays de l'OCDE, l'âge moyen à la maternité est ainsi passé de 27 à 31 ans depuis le tournant des années 1980, ce qui ne va pas, en dépit, là encore, des progrès de la science, sans réduire la période durant laquelle on peut avoir des enfants. Les considérations économiques jouent également un grand rôle. La capacité de trouver un bon emploi stable, la disponibilité et le coût du logement, le poids de la dette d'études, les coûts associés à la parentalité, droit de scolarité, logement plus grand, loisirs, de même que l'aide en argent ou sous forme de services qu'on peut recevoir des proches ou de l'État, sont autant d'éléments qui peuvent peser sur la décision d'avoir ou pas des enfants. C'est aussi une question de valeurs, d'attitudes et de normes sociales, disent les experts cités par l'OCDE. La barre qu'il faut passer pour être une bonne mère et un bon père apparaît de plus en plus haute de nos jours. En même temps, il est de plus en plus important pour les jeunes générations et socialement accepté de privilégier la réalisation de soi, même si cela doit se traduire par le choix de ne pas avoir d'enfants. Et puis, avec toutes ces crises, pandémies, guerres, bouleversements climatiques, a-t-on encore envie de mettre quelqu'un au monde? Les enfants comme bien de consommation. La baisse de la natalité est considérée comme un problème national dans plusieurs pays. On craint entre autres qu'elle plombe la croissance économique au moment même où les gens vivent de plus en plus vieux, ce qui est, évidemment, une bonne nouvelle, mais qui vient aussi réduire la taille de la population active et augmenter les coûts en santé. Les pouvoirs publics semblent souvent aborder la chose comme le faisait déjà le prix Nobel d'économie Gary Becker au début des années 1960. C'est-à-dire de voir les enfants comme des biens de consommation prisés pour le sentiment de satisfaction et le bien-être psychique qu'ils apportent et que les parents s'offrent à hauteur de leurs moyens, en temps et en argent. Cela donne entre autres des politiques qui visent à réduire le coût d'avoir un enfant. Celles-ci peuvent prendre la forme d'une aide financière directe sous forme d'allocations familiales, de crédits d'impôt ou même de primes rattachées au nombre d'enfants, bébé bonus. Elles peuvent être développées en un ensemble de règles et de services favorisant la conciliation famille-travail, comme des congés parentaux, des services de garde et en assurant un meilleur continuum d'aide du début de la grossesse à l'âge adulte. Elles peuvent s'étendre à des mesures visant l'amélioration des conditions de travail des femmes ou la diminution des coûts du logement. Les gouvernements ne devraient pas être les seuls à se sentir concernés. Dans une récente étude, une autre Nobel d'économie, Claudia Golden, a constaté que certains pays, comme la Corée du Sud, l'Espagne ou l'Italie, sont brutalement passés de niveaux de fécondité beaucoup plus élevés à beaucoup plus bas que d'autres pays, comme les États-Unis, la France ou le Royaume-Uni. L'experte explique ce renversement complet de situation par le fait que le premier groupe de pays a profité d'une accélération extraordinaire de la prospérité qui s'est notamment accompagnée d'une explosion des perspectives professionnelles des femmes. Or, ces transformations économiques se sont produites plus vite qu'ont été capables de s'adapter les normes sociales et les attentes des hommes qui ont continué de s'en remettre largement aux femmes pour les tâches domestiques et familiales. En réponse, les Coréennes sont par exemple passées de 4,5 à 0,8 enfants par femme depuis 1970. Se faire une raison. les mesures censées aider les individus à faire le choix d'avoir des enfants sont souvent chères, jusqu'à 3 % du PIB, mais semblent parfois donner certains résultats. C'est notamment le cas lorsqu'on améliore la conciliation famille-travail et qui fait que l'augmentation du taux d'emploi des femmes vient généralement aujourd'hui avec une hausse de leur fécondité, alors que c'était le contraire par le passé. Il apparaît toutefois peu probable qu'on parvienne à repasser la barre des 2,1 enfants par femme, concluait l'été dernier l'OCDE au terme de son grand tour d'horizon de la situation. À la place, comme on l'entend souvent dire au Québec, les pays devront s'en remettre à l'immigration. Ils devront aussi apprendre à faire plus avec la main-d'œuvre dont ils disposent déjà, notamment en intégrant mieux leurs travailleurs marginalisés, en permettant aux travailleurs d'expérience de prolonger un peu leur carrière et en améliorant la productivité de leurs économies. C'était « Le recul de la natalité pourra difficilement être renversé », un texte d'Éric Desrosiers, paru le 10 mai 2025 dans Le Devoir.
Une maison intelligente pour les petits rois à Montréal, un texte de l'agence QMI, paru le 9 mai 2025, dans le Journal de Montréal. Une nouvelle maison intelligente qui accueille des adultes atteints de déficience intellectuelle pourrait révolutionner les soins offerts à cette clientèle vulnérable. Lancée il y a un an dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal, la maison intelligente Les Petits Rois, gérée par la Fondation des Petits Rois, est une initiative unique au pays. Elle se démarque par ses nombreux outils technologiques conçus pour aider ses 8 occupants à développer leur autonomie. Miroirs intelligents, salles multisectorielles, tout est mis en œuvre pour assister les résidents dans leurs tâches quotidiennes. Célia, 33 ans, est une petite reine qui habite la résidence. Cette dernière a vu ses capacités communicationnelles décuplées grâce aux divers outils à sa disposition. Elle adore sa vie à la maison. « J'aime beaucoup parce que j'ai fait la cuisine et tout », a-t-elle dit à TVA Nouvelles. Erika Leiter, une éducatrice spécialisée qui travaille à la maison, a noté de réels progrès chez Célia. Elle est plus motivée pour faire l'exercice. Elle a aussi développé des compétences sociales, a-t-elle illustré. Elle a vraiment évolué à exprimer ses sentiments clairement, alors qu'avant, moi, je la connais bien, je devinais, a noté Micheline Marois, la mère de Célia. Les technologies offertes permettent aux occupants de favoriser leur estime de soi et leur autonomie, tout en aidant le travail des intervenants, selon Dany Lucier-Desrochers, chercheur à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ce qu'on réalise aussi, c'est qu'en accompagnant nos intervenants ici à la maison, parce qu'intégrer les technologies, c'est quand même assez complexe, on réalise qu'ils sont mieux outillés, a-t-il expliqué. Venise Rowe, la directrice de la maison intelligente, est extrêmement fière de l'évolution de ses petits rois dans la dernière année. Simplement de regarder les jeunes quand ils sont assis à table tous ensemble, puis d'avoir l'impression d'avoir réussi cette unité-là, l'esprit de famille, oui, c'est vraiment merveilleux, a-t-elle confié. Cette maison risque d'être la première d'une longue série au Québec. Vania Aguillard, la présidente fondatrice de la Fondation des Petits Rois, a une vision ambitieuse pour l'avenir de son projet. Dans 10 ans, j'aimerais ça qu'on puisse avoir plus d'une centaine de maisons comme celle-ci au Québec, partout au Québec. Parce que des petits rois, il y en a dans la Côte-Nord, en Gaspésie, en Abitibi. est le but de l'exercice. C'est que tous ces jeunes-là puissent profiter de ce concept, a-t-elle décrit. C'était « Une maison intelligente pour les petits rois à Montréal », un texte de l'agence QMI, paru le 9 mai 2025 dans le Journal de Montréal.
Ces excuses bidons qui ne passent pas. Un texte de Philippe Mercure, paru le 19 mai 2025 dans La Presse. Le chien a mangé mon devoir. L'expression s'est imposée comme l'archétype de l'excuse bidon utilisée par ceux qui refusent d'admettre leur tort. Mais attention, il y a de la concurrence. L'actualité a ajouté de nouvelles perles à ce répertoire. J'ai voulu en profiter pour mieux comprendre le phénomène des personnalités publiques qui peinent à faire amende honorable. Au début de mai 2025, l'animateur de radio Yannick Bouchard a envoyé un message à la ministre Caroline Proulx dans lequel on pouvait lire les mots « vulve » et « funérailles » dans la même phrase. Parenthèse, c'est rare et on a compris pourquoi, le résultat est vraiment malheureux. Fin de parenthèse. Sa première ligne de défense a consisté à blâmer un collègue qui se serait emparé de son téléphone. Citation « Ce n'est pas moi, mais mon agent immobilier. » Fin de citation a également dit en substance l'aspirante mairesse Soraya Martinez-Ferrada lorsque le Journal de Montréal a révélé qu'elle avait exigé un dépôt illégal de son locataire. Sa biographie faussement embellie? Aussi la faute de quelqu'un d'autre, bien sûr. La SAAC a d'abord, faussement, montré Microsoft du doigt pour la panne qui l'a frappée récemment. Et on se souvient à quel point le fiasco SAAC-Click n'était la faute de personne et surtout pas de l'ex-ministre Éric Kerr. Parenthèse, qui a fini par démissionner, mais sans jamais faire de réel mea culpa. Fin de parenthèse. D'où vient cette incapacité à admettre ses torts? Rejeter le blâme sur quelqu'un d'autre est-il une bonne stratégie de communication? J'en ai discuté avec des spécialistes des relations publiques. Citation. J'appellerais ça le syndrome du déni rétropédalage. Fin de citation, lance Patrick Howe, président de la firme de relations publiques Consulat RP et président de la Société québécoise des professionnels en relations publiques. Citation. Le déni est une forme de protection, continue-t-il. Les personnalités se font surprendre et réagissent à chaud. C'est un mécanisme tout à fait humain. On se dit qu'un petit mensonge blanc atténuera peut-être la crise. Fin de citation. Le hic, c'est que ça fait souvent l'inverse. Patrick Howe parle d'un effet boomerang. La personne ou l'organisation prise en faute se retrouve à devoir défendre non seulement ce dont on l'accusait au départ, mais aussi son démenti, souvent perçu comme un manque de courage ou un mensonge. Citation. Le problème quand on entend un mensonge, dit Patrick Howe, c'est qu'on se pose tout de suite la question. S'il ment pour ça, est-ce qu'il y en a d'autres? Fin de citation. Citation. La nature humaine fait qu'on cherche à se justifier, confirme Nathalie Vallée, vice-présidente de la firme de communication Paradigme Stratégie. Nous, ce qu'on propose toujours, c'est de dire les vraies affaires. À partir du moment où on dit « j'ai gaffé, je m'excuse », on a déjà un bout de fait dans l'opinion publique. « Faut avouer est à moitié pardonné ». Fin de citation. Le cas récent de l'ancien correspondant parlementaire Alex Boissonneau est parlant à cet égard. L'aspirant député péquiste n'a jamais tenté de cacher ses écarts de jeunesse au sein du groupe militant Germinal et y a dit les regretter. Il a semblé sincère et ça a généralement bien passé. La réhabilitation la plus spectaculaire au Québec, évoquée à la fois par Patrick Howe et Nathalie Vallée, est sans doute celle de Marie-Pierre Morin, qui s'est excusé publiquement après des allégations d'agression physique et de harcèlement sexuel et a pu depuis retrouver ses tribunes. Mais comment croire à la sincérité des excuses quand on sait qu'elles émanent d'une stratégie élaborée par une firme de relations publiques? Je trouvais ma question bien bonne. La réponse de Nathalie Vallée l'est tout autant. Citation. Les excuses peuvent quand même être sincères, juge-t-elle. Comme conseillère, Mon rôle est d'amener un regard objectif sur une situation émotive. La personne prise là-dedans est atteinte personnellement et vit mal avec le fait d'avoir gaffé. Ce que fait la firme de relations publiques, c'est d'amener un recul, de faire comprendre qu'il y a un passage obligé qui est de s'excuser et que ça doit être vrai et senti. Fin de citation. Les Québécois prêts à accorder une deuxième chance. Patrick House souligne qu'il y a une dimension culturelle dans la façon dont les personnalités publiques expliquent leur gaffe à la population. Citation. « Chaque société a ses codes, ses sensibilités », dit-il. « Je ne pourrais sans doute pas faire de relations publiques dans certains États américains parce que je n'en maîtrise pas les codes. De façon générale, au Québec, on accepte assez bien quelqu'un qui fait un repentir. » Fin de citation. Citation. « Les Québécois sont prêts à donner une deuxième chance s'ils sentent qu'il y a un sentiment d'excuse, une reconnaissance d'avoir gaffé. » Fin de citation, dit Nathalie Vallée. C'est ce qu'a été incapable de faire Kevin Parent, par exemple. À Tout le monde en parle, en avril 2025, il n'a jamais assumé clairement ses histoires de grainage et s'est embourbé dans ses explications. Si les Québécois acceptent les repentirs, on peut se demander s'ils ne sont pas plus allergiques aux mensonges que les Américains, par exemple. Le Washington Post a déjà calculé que Donald Trump a proféré pas moins de 30 573 mensonges pendant son premier mandat. Et il a été réélu. Est-ce que ça passerait au Québec? Il est permis d'en douter. Patrick Howe en convient, les médias et la population sont exigeants envers les personnalités publiques. Mais selon lui, c'est à ces dernières d'accepter ou de refuser ce contrat implicite. Il recommande à quelqu'un qui veut occuper une fonction publique de prendre une feuille de papier et de la diviser en deux colonnes. À gauche, on écrit les éléments qui pourraient nous être reprochés. À droite, ce qu'on répondrait si ces éléments en venaient à être dévoilés. Citation. Ça permet non seulement de se préparer, mais aussi de déterminer si on est à l'aise de se faire poser ces questions-là. Si la colonne de gauche est trop grosse et qu'on n'est pas capable de remplir celle de droite, on est peut-être mieux d'y réfléchir à deux fois. Fin de citation, dit-il. Citation. Ma deuxième règle, c'est de toujours tourner ses pouces 7 fois avant de publier sur les réseaux sociaux. Fin de citation, énonce-t-il. Celle-là est susceptible de faire réfléchir bien des gens, et pas seulement les personnalités publiques. C'était Ces excuses bidons qui ne passent pas. Un texte de Philippe Mercure, paru le 19 mai 2025 dans La Presse.